Oui, on n'en sort pas. La COVID et le fait que plusieurs régions sont maintenant en zone rouge va bien évidemment marquer une bonne partie des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Et un de ces sujets-là, c'est bien entendu le transport pour les personnes en situation de handicap. Mais aussi, on voulait parler à Serge Poulin, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, parce que l'organisme fête ce mois-ci ses 40 ans. Bonjour, M. Poulin.
Ben bonjour.
Ça va bien?
En pleine forme. Écoutez, on fait avec, comme vous dites, la situation COVID n'aide pas tellement le monde, ni des transports, mais on essaie de travailler à s'assurer que les droits des personnes en situation de handicap ne soient pas bafoués et que ça demeure sécuritaire, les transports collectifs.
Et c'est une mission que votre organisme donc mène depuis longtemps. Tout d'abord, on va parler de ce 40e-là. Rappelez-nous un peu comment ça a débuté, le regroupement des usagers du transport adapté de Montréal.
Ben écoutez, rappelons-nous qu'avant les années 80, en fait, il y avait des sociétés, il y avait en fait des organisations privées qui avaient mis des transports adaptés sur pied. On pense entre autres à Montréal, aux Frères Forêt, qui, grâce à une subvention que leur avait donnée leur mère, en tout cas, puis que c'était des personnes en situation de handicap, avaient comme créé un transport adapté. Lors de l'arrivée de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en 1978, évidemment, c'est devenu un dossier politique et dans lequel on a dit non, les personnes en situation de handicap se doivent d'être transportées comme l'ensemble des citoyens. Alors, ça a été transmis aux sociétés de transport, notamment à Montréal, à la STM, et je vous assurais qu'au début, c'était pas... ils n'en voulaient pas, on va dire la vérité, là. C'est un dossier qu'ils ne voulaient pas, parce que c'était complexe à faire, puis tout ça, puis en tout cas. Mais sauf que, comme la loi l'exigeait, que les municipalités se dotent de transports adaptés, ils l'ont pris. Et donc, ça a été créé en 80. D'ailleurs, le transport adapté de Montréal fête aussi ses 40e. Et c'est suite à ça, justement, c'est dans la même lignée qu'a été créé le regroupement des usagers du transport adapté et accessible. C'était pas accessible à l'époque. C'était juste transport adapté au début. Donc, on s'occupait parce que les usagers, au début, comme je vous dis, c'était fait du mieux possible, mais il y a des gens qui étaient transportés dans des camions vraiment pas adéquats, c'était trop petit, c'était trop... Mais dès que c'est devenu à la STM, on a créé le RUTA pour, justement, commencer les revendications des droits des personnes en situation de handicap à de la sécurité et aux services.
Et au fil des années, vos relations avec la STM, est-ce qu'elles se sont transformées?
C'est-à-dire, écoutez, ça a parti, c'était pas évident au début. Là. On s'entend que, moi je me rappelle, là, si on relève dans les années 89, 10, 11, tout ça, là, les réunions avec la STM, c'était jamais évident. Il y avait beaucoup de réticence. Il y a des gens qui étaient ouverts. Par ailleurs, il y a des acteurs importants qui ont travaillé à dire, travaillons ensemble, même si c'est pas évident au début, on va finir par être capable d'établir ensemble des manières de fonctionner, puis on va avoir les feedbacks des usagers. On va pouvoir être en mesure d'avoir de meilleures réponses aux besoins. Écoutez, ça s'est amélioré, c'est sûr. On travaille maintenant en partenariat. Cependant, ça demeure pas moins qu'on a quand même encore notre mission de défense des droits. Et c'est sûr que nous, notre préoccupation première, c'est de ramener les feedbacks des individus aux instances concernées, autant au niveau du transport adapté qu'au niveau du transport régulier, parce que depuis à peu près, 2000, on s'occupe maintenant aussi de l'accessibilité du transport régulier. Et ça, autant au niveau de la STM que de l'ARTM, que d'Exo, que de ce qui s'en vient, notre futur rêve.
Ben oui, c'est ça, encore beaucoup de transformations. Est-ce que c'est plus facile qu'avant de faire valoir qu'il faut que ces transports-là soient accessibles?
C'est toujours complexe. Évidemment, on lutte contre des grosses machines, on ne se le cachera pas. Elles sont très bien organisées et tout ça. Cependant, on sent quand même une volonté, mais c'est sûr que ça ne va jamais à la vitesse qu'on souhaiterait. Là, je veux dire, quand on sait qu'il y a quoi, une quinzaine de métros accessibles sur 63, on a qu'il y en a plus. Les gens ont soif d'autonomie, et ça avec raison. Alors nous, c'est sûr qu'on continue à pousser. On a vu de nettes améliorations, mais c'est jamais assez vite pour les usagers, puis il faut se mettre à leur place. Ils veulent participer à la société comme des citoyens par entière. Donc, si on les... Puis le transport adapté, c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Le transport adapté, c'est bon, mais ça manque de spontanéité. Ça... Donc, les gens peuvent pas... Ils doivent toujours programmer d'avance, ce qui fait que on améliore les services et tout, mais les gens ont soif d'autonomie, puis nous, en tout cas, c'est ce qu'on pousse beaucoup.
Et le problème du métro, justement, c'était qu'on n'y avait pas pensé dès le départ, puis que c'est toujours plus compliqué de faire des travaux par la suite. Ça, est-ce que ça commence à s'améliorer, le fait de penser à l'accessibilité en amont?
Bien, en tout cas, c'est le message qu'on passe désespérément, mes équipières et moi, et plein de monde du milieu associatif, dans l'ensemble des limitations, on passe ce message-là, de dire non, mais attendez pas ou essayez pas de faire des choses sans travailler avec le milieu parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Oui, on voit que dans les nouvelles stations, en tout cas, on en tient compte. Au niveau du REM, ben ça, il y a beaucoup de choses à travailler parce qu'on sent là que il y a certains acteurs du milieu qui souhaitent ça, ils veulent aller rapidement en même temps. Bon, là, on a toute une bataille à mener au niveau du REM, puis on leur dit, arrivez-nous pas avec des présentations déjà toutes faites, parce qu'il y a des choses que c'est sûr qu'on sera pas content, puis qu'on va contester, puis là, vous allez nous revenir en disant, ben écoutez, on peut pas le faire, il est trop tard. Alors, on veut pas en arriver là. On souhaite que, justement, la consultation en amont existe à tous les niveaux. Et ça, autant, dans l'ensemble des transports collectifs montréalais, puis je dirais même québécois.
Parce qu'on l'a vu dernièrement avec certaines nouvelles stations de train de banlieue qui étaient inaugurées sans accessibilité.
Exactement. Et ça, pour moi, et mon équipe, on dit souvent, écoutez, on sait qu'on est... Avec le rétrofit, c'est plus complexe. C'est pas une excuse, mais on le sait. Puis il faut vivre malheureusement avec les conséquences de ça. Mais nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on demeure intraitable pour ce qui est nouveau. On dit non, là, c'est un discours public connu et je pense, prôné depuis plusieurs années. Alors là, on n'est plus à l'époque de dire, j'y avais pas pensé.
Voilà, exactement. Vous avez eu une rencontre dernièrement, le 30 septembre. S'agissait de quoi exactement et qu'est-ce qui en est ressorti?
Bien, écoutez, premièrement, ça a été une belle rencontre. Mais ça, c'était plus avec nos membres.
Avec vos membres, c'est ça?
Oui, grâce à notre agente de mobilisation, Pauline, qui fait un excellent travail, qui a quand même réuni plus d'une quinzaine de membres sur Zoom, parce qu'évidemment, COVID-19...
Oui, c'est plus compliqué de se consulter.
Et les personnes, malheureusement, dans beaucoup de cas, ne veulent pas sortir, pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent et qui sont aussi très réalistes. Mais on fait quand même des rencontres pour les informer puis leur demander... à quoi vous vous attendez au cours des prochaines années. Certaines choses sont ressorties. Ils ont quand même trouvé que, malgré les retards qu'ils rencontrent au transport adapté un petit peu, là, que c'était quand même bien, en tout cas qu'on essayait de faire ça de façon sécuritaire. Au niveau du transport régulier, j'avoue qu'on a un petit peu plus de difficultés à avoir des feedbacks, entre guillemets, on en a un peu. Mais les gens, pour toutes sortes de raisons, ne sortent pas. Puis bon, dans les zones où on est, notamment la Rouge, Alors, les gens évitent vraiment de sortir, sauf pour leurs besoins essentiels. Alors, je vous dirais que c'est un petit peu plus complexe, là. Mais les gens sont très, très, très contents de nous savoir là. Et moi, je suis énormément satisfait de voir, puis j'aimerais ça en avoir plus, on en veut toujours plus, mais de voir les gens qui participent, ça leur permet de discuter entre eux. Ça leur permet d'avoir des informations qu'on leur transmet, notamment concernant le port du masque et tout, qu'on leur a parlé. Tout ça. Alors, je pense que c'est intéressant pour eux autres et ça suscite une meilleure participation, une participation aussi beaucoup plus active.
Ça fait déjà un bon moment là, que le port du masque est obligatoire, mais on sait qu'il existe des exceptions. Est-ce que vous avez eu du feedback en lien avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré des problèmes?
On en a eu quelques-uns. Ça semble un peu s'estomper. Le petit problème qu'on a eu, c'était ça. On voulait pas que, et je répète toujours qu'on est toujours en faveur fortement du port du masque, mais il fallait que les informations soient diffusées sur notamment les services au niveau du transport adapté pour dire, écoutez, communiquez avec le service à la clientèle si vous croyez avoir une exemption. Par exemple, une personne TSA, c'est pas évident. Une personne avec un paraplégique, tu peux pas mettre le masque à l'air.
Voilà.
Je parlais avec M. Fortin chez vous lors d'une entrevue avec une usagère qui dit, moi, je vais me le faire mettre par mon voisin. Moi, je l'ai rappelé après. Je lui dis, mais non, tu ne fais pas ça. C'est dangereux pour ta sécurité. Alors, je comprends que tu veux être de bonne foi. Nous, on croit que les gens sont de bonne foi, en tout cas, en majorité, et que, je pense que c'est important d'utiliser l'information. Alors, nous, on a fait circuler l'information À travers nos organismes, parce que la SPM l'a publié quand même, mais ils l'ont mis dans un catacombe d'Internet, notre agent de mobilisation qui est ultra habile sur Internet, ça y a pris 10 minutes à le trouver. Alors on trouvait ça, on a dit, ben, il aurait pu y mettre ça, on ne veut pas faire la promotion de l'exemption, c'est pas ça l'idée, mais il y a des gens qui, dans leur situation, se retrouvent avec cette problématique-là. Alors ça, il faut le considérer.
Et qu'elle ne soit pas isolée à cause de ça.
Exactement, parce qu'on a des parents en détresse qui nous ont appelé, disent « Ah, mon enfant était ça, là, je peux plus l'envoyer des camps de jour en panique complète. » Non, non, on va régler ça. Alors, on a beaucoup travaillé avec notamment le transport adapté à ce niveau-là. Au niveau du transport régulier, j'avoue que j'ai pas eu de feedback sur les obstacles rencontrés par les gens, parce que ce qu'on me dit, c'est « Ben écoutez, si une personne manifeste qu'il y a une exemption possible, ben, on la laisse passer, comme l'avait dit Dr. Arruda, ben, sans demander de papier médical et tout. »
Une dernière petite chose, toujours en lien avec la COVID, on dit que le sort du télétravail va créer des opportunités pour les personnes en situation de handicap, mais est-ce que ça peut être une arme à double tranchant? Est-ce que vous craignez qu'on invoque le télétravail pour comme excuse pour moins investir dans les transports accessibles?
Ben, on va espérer que non, mais évidemment, votre question a un très bon fondement, c'est-à-dire que on va espérer que ça ne sera pas le cas, parce que de toute façon, il n'y a pas juste le travail dans la vie, il y a les activités, il y a tout le côté social. Alors, je pense que c'est ben beau de dire, OK, je peux travailler chez nous, j'ai pas besoin de transport accessible, mais c'est pas vrai. On en a besoin pour aller à l'épicerie, on en a besoin pour faire nos activités de la vie quotidienne, on en a besoin pour socialiser, on en a besoin pour mille et une choses. Alors, c'est pas, en tout cas, on n'a pas entendu jusqu'à date, heureusement, de coupure à ce niveau-là, mais soyez assurés que le Ruta de Montréal va veiller au grain, puis nous, on ne laissera jamais passer ça, parce que c'est pas, une personne a le droit d'être transportée. C'est un droit, là, je veux dire, c'est fondamental pour nous. Alors, qu'elle le fasse, qu'elle travaille chez elle, si effectivement, c'est une opportunité, ça peut être une chose, mais on a tous besoin de se transporter pour différentes raisons. Je connais pas quelqu'un qui pourrait vivre constamment chez elle, puis de jamais sortir de là. Et de toute façon, si ce n'est qu'au niveau mental, ce serait vraiment pas génial.
Alors, Serge Poulin, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, on souhaite une longue vie encore à votre organisme et on vous remercie de veiller au grain comme ça.
Bien, merci beaucoup, madame, et j'en profite pour saluer et d'encourager nos auditeurs et auditrices à continuer de suivre les mesures, puis on va espérer bientôt qu'on va pouvoir faire se transporter, faire du social et faire nos activités régulières.